Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 31 décembre 2025. Ça y est, on y est, fin d'année avec un crypto total pour le marché crypto autour de 3000 milliards et une année 2025 qui nous aura pas forcément apporté que de la joie du côté du marché crypto, avec notamment une alt season qui n'est jamais venue malheureusement pour les portefeuilles constitués uniquement d'altcoins. Donc aujourd'hui, le but pour 2026, c'est d'en tirer les enseignements. Également, en guise d'introduction de cette émission qui est juste voilà un petit interlude entre 2025 et 2026. Comme vous l'aurez constaté, l'intégralité de nos réseaux, y compris YouTube, viennent de passer donc de CM vers FinTales, qui est tout simplement la contraction de Financial Tales. Pourquoi ? Eh bien, puisque désormais, depuis 2-3 ans de temps, pour ceux qui suivent l'émission au quotidien, nous ne parlons plus que de crypto. Nous nous sommes ouverts à l'intégralité des marchés. Ça nous a permis de bien surfer sur les ETF, sur les actions, sur les métaux précieux et de déceler comme ça des tendances relativement tôt en amont de ce qui s'est produit donc d'un point de vue macro et géopolitique ces dernières années. Donc le but pour nous au travers de FinTales dès début 2026, vous aurez un petit trailer teaser d'animation qui vous montrera la rétrospective de ce qui s'est passé en 7-8 ans de CM et ce vers quoi on est tourné désormais, c'est-à-dire l'avenir, avec des nouveaux intervenants qui nous parleront justement du multimarché, un peu plus la macro, la géopolitique, etc. Et tout en gardant notre cœur de communauté, bien entendu, c'est-à-dire vous, avec une, deux, trois fois par semaine, une analyse macro de l'ensemble des marchés qui sera bien plus focus sur le corps d'expertise que nous avons, c'est-à-dire les crypto-monnaies, la blockchain, et tout ça, nous ne le renions pas, bien entendu, mais nous allons essayer de vous apporter une expertise supplémentaire que nous n'avons pas forcément, nous, en tant que crypto aficionados, qui pour la plupart nous nous sommes faits et nous avons réellement et véritablement découvert à la dure ce qu'étaient les marchés financiers au travers des crypto-actifs, à compter pour les plus anciens d'entre nous de 2010-2015 et pour les plus récents entre 2020 et 2025. Donc tout ceci nous amène à cette transition pour 2026 sur laquelle on va de nouveau avoir une année qui semble complexe en apparence, puisque ça sera l'année, rappelons-le, des midterms par rapport au président des États-Unis et ça opérera en novembre 2026, avec un prix aujourd'hui de Bitcoin qui sensiblement est bloqué depuis pas mal de temps autour de 80-90 000 $. Ça fait un mois vraiment qu'on surfe sur cette moyenne mobile 100 qui se trouve à 86 000. Si jamais au premier trimestre 2026 on venait à avoir un rallye haussier pour backtester la zone de cassure ici structurelle qui se trouve quelque part entre 100-101 et les 108 grand max, on pourrait en effet avoir un contre-rallye avec un sentiment qui est extrêmement pessimiste actuellement, ou bien en sortie de cette petite contraction, on ira dévisser un peu plus bas avec un premier stop autour de 74-75 qui était les tarifs de Trump, 0,5 de Fibo à 70 et enfin le 0,618 qui est quasi aligné, il le sera dans une semaine ou deux avec la moyenne mobile 200 à 57 700 $, plus ou moins 10 000 $ bien entendu. On s'était mis une petite box au cas où ça nous fasse un peu une déroute type FTX Luna comme ça nous l'a fait en 2022. Il y a assez peu de chances que ça arrive aujourd'hui, mais c'est la box, on va dire, de si Michael Saylor et MicroStrategy se mettaient à vendre des bitcoins, entraînant un peu cette spirale négative infernale et donc en dernier recours entre 40 000 et 45 000 $. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui disent que comme on n'a pas eu un bull run d'anthologie, notamment du côté des alts qui sont plutôt en bear depuis pas mal de temps, que Bitcoin risquerait de baisser moins qu'à l'accoutumée, etc. Je vous rappelle que si Bitcoin faisait depuis les 126 000 ne serait-ce qu'un retour à la moyenne mobile 200, ça nous fait 55%, c'est-à-dire bien, bien moins que l'ensemble de tous les bear markets qu'on ait vu précédemment. Ça serait quasiment rien, moins 50 sur Bitcoin si jamais on revenait juste à cette moyenne mobile 200. Donc gardons ça dans un coin de notre tête, tout en ayant pour objectif de 2026 de faire notre DCA pour ceux qui veulent le faire. Comme d'habitude, je ne suis ni là pour vous faire du conseil, ni pour vous dire quand acheter ou quand vendre. Par contre, c'est vrai que dans les extrêmes de marché, quand tout surchauffe ou quand tout est trop bas et que tout le monde est en train vraiment de vendre tout à n'importe quel prix, on est là pour vous rappeler que dans ces moments-là, il n'y a que votre psychologie et l'application que vous aurez de cette dernière au fur et à mesure que vous vous découvrirez vous-même sur les marchés, puisque c'est un véritable apprentissage en cours de route qu'on a besoin de traverser soi-même pour petit à petit comprendre à la fois comment fonctionnent les marchés, mais surtout comment on fonctionne soi-même. Et donc, si je pouvais donner deux grandes tendances au-delà de faire un DCA sur un an de temps, ce qui paraît pas si déconnant pour 2026, ça serait potentiellement soit d'avoir un premier trimestre immédiatement dégradé qui nous amène aux objectifs techniques avant le printemps autour de entre 50 et 60 000 dollars, ou bien le fameux rebond autour de 100, 108, grand max. Si on repasse au-dessus de 108, ça veut dire que tout ça n'était qu'une énorme contraction dans une continuité haussière, chose que ça n'a pas faite jusqu'ici sur ce fameux cycle de 4 ans, mais qui est tout à fait de l'ordre du possible aussi. Peut-être qu'un jour, justement, 2026 nous le prouvera ou non, eh bien ce fameux cycle de 4 ans sera enfin terminé. Et donc, c'est avec ces deux scénarios qui finalement nous mèneront à peu près au même chemin plus tard que nous composerons par la suite pour 2026 à 2030, comme vous l'aurez compris, si on se projette à minima sur 4-5 ans supplémentaires, avec par la suite, peu importe si Bitcoin vient en effet ou non autour de 50-60 000, une projection d'ici à 3-4 ans qui pourrait nous conduire sensiblement quelque part entre 150 et 200 000 dollars, ce qui, si on vient chercher les 50 000, nous fait des comptes ronds 1 x 3 à x 4 environ, quand on voit qu'on a rentré 1 x 7 sur ce cycle, en prenant en compte, comme d'habitude, les retours qui semblent diminuer. En tout cas, c'est ce qu'on peut observer depuis une quinzaine d'années sur Bitcoin. La seconde crypto-monnaie du marché, à savoir Ether, c'est pareil, ça fait un bon mois qu'on latéralise autour de 2008 à 3000, donc pour l'instant, ça ne passe pas. Un statu quo qui, pour l'instant, pourrait nous conduire, si jamais on remontait autour de 3007 à 4000. En bas, on a la moyenne mobile 200 autour de 2450. L'énorme pivot de marché, qui pour moi est une zone qui devient vachement intéressante pour Ether dès lors qu'on la raccroche autour de 2100-2150 et le point bas d'il y a deux cycles, comme vous le savez, autour 2004. Donc aujourd'hui, toute notre zone de jeu pour le DCA potentiel, si on nous donne ces prix en 2026 pour Ether, se trouverait quelque part entre 1004-1005 et 2000 et plus. Donc ça en ferait une zone tout à fait remarquable. À prendre en considération aussi que ça fait tellement de temps qu'on est dans cette zone que si ça a fait un peu comme ça a fait sur les métaux précieux ou d'autres actifs comme ça qui ont parfois pris une décennie dans un grand range à vraiment se construire au niveau du prix, à avoir une acceptation intrinsèque du marché par rapport au prix en tant que tel et par rapport à ce que ça représente, la capitalisation aussi, puisque dans les cryptos, souvent, on a des capitalisations, on l'a vu cette fameuse nuit du 10 au 11 octobre quand quasiment tout est allé à zéro, que beaucoup d'altcoins n'étaient pas si capitalisés que ce qu'ils l'affichaient réellement. Donc en termes de flottant, comme ils disent dans les termes et le jargon technique boursier, on avait toute la liquidité qui avait été retirée par les market makers et on a un Atom Cosmos qui est allé à 0.01. Donc c'est vrai que c'est assez catastrophique et ça donne pas une énorme confiance dans les altcoins quand on voit ça. Toujours est-il, pour la seconde crypto-monnaie du marché, je pense qu'on est un tout petit peu mieux loti. Mais comme d'habitude, pour ceux qui voudront jouer un peu plus safe en 2026, il faudra jauger du ratio que vous allouez entre Bitcoin et Ether, voire par la suite des alts ou des actions qui sont liées de près ou de loin au marché crypto, que ça soit des Coinbase, des Circle, des minières comme Terra Wolf ou d'autres. On a Hut 8 et on en a quelques autres, on les regardera dans un instant. MicroStrategy aussi, pourquoi pas, Marathon. Donc il y en a une dizaine, une quinzaine en tout, de vraies grosses actions liées à la crypto ou à la blockchain. Mais voilà, comme d'habitude, est-ce que ça ne représente pas un risque supplémentaire d'aller jouer ces proxys-là plutôt que de juste détenir finalement du Bitcoin? C'est la question à laquelle vous devez systématiquement répondre. Un petit tour du côté des métaux précieux avec le gold qui est venu chercher 4542 dollars l'once. Alors là, ça commence un petit peu à se gâter, d'autant plus que on a fait aussi un peu la parabole sur le platine. On est venu chercher 2005, on est de retour à 1009. Donc quand même là, on commence à avoir des vrais signaux de top du côté des métaux précieux. C'est pareil pour le palladium, on est venu chercher 2100 dollars, on est de retour à 1005. C'est pareil pour le silver, bien que le silver ça soit un peu plus soutenu à court terme. On peut constater que en termes de momentum, que ça soit le RSI, les volumes, il n'y a pas grand chose qui ment ici. On est venu à 84 dollars, on est à 71-72, donc un simple retour à la moyenne mobile 20, c'est 52 dollars, c'est assez vertigineux là pour les métaux précieux. Du côté des indices, pas plus, pas moins, puisque le S&P 500 est à 6900 points, on est vraiment à quelques points des ATH, c'est pareil pour le Nasdaq, 25 462. Donc la question, ça va plutôt être, Est-ce que sur début 2026, on va chercher les accès immédiatement et on se casse la gueule derrière entre l'été et automne 2026? Parce que ne vous y trompez pas, si on a un Q1, un premier trimestre 2026 boule pour l'ensemble des marchés, c'est que derrière, après le printemps, on a intérêt à véritablement fermer les écoutilles. Ou est-ce que c'est immédiatement là qu'au premier trimestre, on ventile, on commence à avoir des mauvaises nouvelles pour X ou Y raison et on aura un peu une digestion autour de printemps-été pour un renouveau autour de l'automne slash novembre des midterms de Trump? C'est ça les deux scénarios antagonistes de 2026, mais en tout cas c'est les deux scénarios que je jouerai de mon côté et qui je pense ont une très grande chance chacun de se réaliser. Le dollar américain clôture l'année autour de 98,34, pas de prise de décision pour l'instant et dans l'attente justement de voir ce que va nous offrir l'année prochaine. On est en positif pour le WPEA et le CW8, donc pour ceux qui jouent les ETF monde aux côtés en euros, avec notamment une très bonne nouvelle, je crois, pour le WPEA, si je dis pas de bêtises, de iShares, c'est-à-dire BlackRock, avec des frais pour les Français qui passent de 0,25 à 0,20. Donc, vous allez avoir les meilleurs frais sur cette portion qui ne vous oblige pas à acheter, comme le CW8, 609€ d'un coup, puisqu'on est à 6,13€ du côté du WPEA, ce qui risque d'en faire pour 2026 l'ETF monde préféré des Français. Comme vu tout à l'heure, au niveau des minières et des actions de type Coinbase, etc., on est toujours en correction. Donc, on a franchi le 0,5 pour Coinbase à 235, on est à 231. On a un gros support autour de 190 à 200, juste en dessous, la moyenne mobile 200 à 168$. Et pour du très long terme, pourquoi pas, hein, si ça se gâtait, les 120$. Donc, il faut continuer de laisser toutes ces actions baisser. Il y en a peut-être une qui a baissé bien avant toutes les autres et qui arrive vraiment sur une zone de polarité long terme, c'est MicroStrategy. Donc elle a 155$, on aimerait la voir quelque part entre 130 et 145. C'est juste en dessous, bien entendu. Le risque récompense commence à devenir intéressant. À ceci près que si Bitcoin nous déroule, comme on l'a vu tout à l'heure, les 50-60 000$, voire peut-être même en dessous des 50, est-ce qu'on n'aura pas MicroStrategy qui va plutôt aller s'échouer quelque part autour de 100$, sachant qu'à ce jour, on avait un top sur cette mèche folle autour de 542$ pour la société de Michael Saylor, qui aujourd'hui représente certes un proxy sous Nitro pour les crypto-bros, mais représente aussi un risque bien plus important qu'un simple Coinbase dans votre portefeuille. Du côté action américaine, on va dire au sens large du terme, eh bien, une année portée par l'IA, par des Nvidia, mais pas que. Les supersets se sont très bien portés et comportés. On a eu de belles performances, y compris sur Robinhood, qu'on avait détecté bien en amont ici, notamment en novembre 2023. On avait des volumes qui commençaient à rentrer, tandis qu'on était sur un range un peu à la Chainlink, comme j'aime le dire, puisque dans la crypto, ça a été un des plus beaux ranges qu'on ait vu, Chainlink, pour le coup, pendant longtemps. Donc voilà, une belle réussite aussi de ce côté-là. Bien entendu, on n'a pas que des réussites, mais on essaie de faire un peu la rétrospective aussi de ce qui s'est passé en 2025, et j'espère pouvoir vous détecter comme ça 2, 3, 4, 5 gros dossiers en 2026 pour nous aider petit à petit à nous tirer tous vers le haut. Du côté des actions françaises, pas plus, pas moins. On a eu un luxe qui a été vraiment un peu tambouriné, hein, cette année, bien que ben, petit à petit ça reprenne. On le voit avec un LVMH qui nous a fait un point bas à 440€ et qui était à un moment presque, ben, qui était même à 900€, donc en recul de 52%. Aujourd'hui, on est de retour à 640, donc c'est un peu balle au milieu, j'ai envie de dire, balle au centre. Et c'est un peu pareil pour bon nombre de dossiers de secteurs du côté du CAC 40 qui, malgré tout, nous aura offert une performance en 2025 qui était loin d'être déconnante. Donc aujourd'hui, ben, n'hésitez pas à me dire si vous avez un PEA en France, ce que vous y mettez dedans. Est-ce que vous avez des bancaires? Est-ce que vous êtes plutôt sur la technologie, sur la santé, sur tout ce qui est justement lié au secteur du luxe? On a les spiritueux également, Rémy Cointreau qui avait pas mal pris cher à un moment. On a Air Liquide qui en ce moment est en correction, mais peut-être débute son rebond à 160€. Le best-of là aussi, ça aurait été de voir 150€ avec la moyenne mobile 200. Schneider Electric, pareil, qui est une très très bonne action. Bon, je ne vais pas toutes vous les citer. Vous avez AXA pour le côté assurance, Total Energy pour ceux qui suivent un peu plus voilà, les investissements de ce côté-là. Vous avez forcément des bons dossiers ASML aussi, ne l'oublions pas, qui a connu une année 2025 assez extraordinaire. Voilà, vous trouverez toujours quelque chose qui vous plaira, je pense, au niveau des actions françaises, des dossiers à suivre. Le point rouge pour clôturer au-delà de l'Asie, comme je vous dis, que je surveille mais que je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas me mettre être à vous parler de la zone asiatique, de la Chine, du Japon, etc., comme si c'était la grande tendance du moment, puisque malgré tout, les marchés émergents resteront très intéressants, je suppose, pour 2026. En tout cas, c'est le consensus des grandes banques à aujourd'hui, et je pense qu'ils ont de moins en moins d'intérêt de raconter du bullshit. J'ai l'impression que les banques d'investissement sont un peu plus alignées qu'à l'époque de 2008, notamment au moment des subprimes, où vraiment c'était extrêmement toxique. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'aujourd'hui, les banques jouent vraiment en faveur de leurs clients et qu'ils ne jouent pas la plupart du temps contre leurs clients, un peu ce qu'on peut voir notamment du côté de nos bons vieux exchanges crypto qui ont tendance à déclencher des cascades de liquidation sur des prix bien donnés, et on voit ce que ça a donné ce fameux 10-11 octobre. Mais bon, sans rentrer dans le complotisme ou je ne sais quoi, ou la manipulation de marché, en tout cas, c'est vrai que du côté des alts, cette année, ça aura été vraiment compliqué. On a eu des belles choses, on a eu des Solana qui nous ont réalisé des belles performances, mais c'était plutôt 2023-2024 que 2025. Donc 2025, pour les alts, on peut considérer que ça aura été une année de bear market, et peut-être que plus tard, ça leur permettra de repartir un petit peu plus vite. La question, c'est, comme AAV pour la DeFi et comme bon nombre d'autres main leaders de chacun de leur domaine, est-ce qu'on aura un choix véritable qui va s'opérer sur le marché crypto pour permettre à certains dossiers en particulier de véritablement récupérer, ou bien ben, le marché s'est mué un peu plus profondément que ce qu'on le pensait, et finalement il n'y aura plus que 5, 10, 20 gros dossiers qui perdureront dans cette immensité de dizaines de milliers voire de millions d'altcoins aujourd'hui, notamment en cause des mêmes coins de ces dernières années qui certes ont pullulé mais ont dilué et ont continué finalement d'essorer les particuliers qui sont venus à cette table de casino là. Donc comme d'habitude, pas de jugement de valeur, mais c'est quelque chose à prendre en considération de notre côté, et qui très certainement, en plus du run sur les métaux précieux, en plus du run sur l'IA, a contribué à complètement épurer les altcoins. Donc aujourd'hui, pour du long terme, c'est assez difficile hein, de se positionner, mis à part peut-être justement sur du Solana, du AAV, du BNB ou des choses très solides et robustes qu'on a vu se maintenir justement sur suffisamment d'années et de cycles pour pouvoir se dire ok, aujourd'hui je place peut-être une petite pièce là-dessus. Je l'ai dit comme ça à l'oral, j'ai pas de préférence pour l'un ou pour l'autre, j'essaie juste de vous donner la profondeur de comment vous pouvez essayer de réfléchir de votre côté, de ce que ça risque de vous en coûter de vous exposer du côté des altcoins plutôt que de juste détenir aujourd'hui du papa BTC qui nous aura prouvé ces dernières années que ben, il a toutes ses lettres de noblesse pour le coup, et que si demain, pour x ou y raison, l'IA venait à supplanter la blockchain, il resterait malgré tout un et unique Bitcoin qui continuera de tourner, qui peut-être aura connu ou non dans 5, 10, 15 ans l'adoption mainstream que tout le monde lui voulait, mais dans tous les cas, il sera toujours là demain et il pourra permettre les transferts tels qu'il le fait aujourd'hui de pair à pair sans avoir d'intermédiaire. Et ça, c'est toute la beauté de ce qu'on a vu naître au travers de ce livre blanc de Satoshi Nakamoto il y a désormais plus de 15 ans, et qui, j'espère, nous apportera encore quelques belles années dans cet océan déchets de marché financier. Et je ne peux que vous souhaiter de par avance une très très bonne fête de fin d'année, de jour de l'an, je sais pas comment on l'appelle exactement, la Saint-Glinglin, j'ai envie de dire, et donc qui nous apportera de belles choses en 2026. Dans tous les cas, j'espère et j'estime vous avoir apporté les deux grands scénarios qui pour moi ont énormément de chances de se réaliser. Soit ça baisse au premier trimestre 2026 et on a une bonne année 2026 derrière de récupération et ça continuera à nous offrir un truc positif par la suite. Ou bien on attaque sur les chapeaux de roue, boule de premier trimestre 2026, derrière ça digère autour de fin de printemps, été, début d'automne, et ensuite on a le point bas multimarché autour de automne, fin d'année 2026, avec comme à l'accoutumée finalement pour le marché crypto et le Bitcoin, hein, une récupération en 2027, 2028 le halving, et la suite vous la connaissez. Je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année, essayez de faire attention aux gens autour de vous, celui qui boit ne conduit pas bien évidemment, il vaut mieux rester finalement à l'endroit où l'on se trouve, dormir quelques heures et repartir à peu près frais, ou du moins quand on est réellement en mesure de faire quoi que ce soit. Ça fait toujours bizarre de le rappeler soi-même, mais je pense pense qu'à partir du moment où on a une audience, que ça soit de 50, de 100, de 5000, de 5 millions de personnes, si ça peut sauver une ou deux personnes de juste se le rappeler ou d'avoir des personnes sobres qui le rappellent aux personnes qui seront complètement déglinguées ce soir, eh bien, c'est que le message est passé. Et derrière, voilà, c'est des regrets qu'on ne portera pas toute sa vie d'avoir comme ça parfois des personnes qui nous quittent prématurément pour trois fois rien, malheureusement, et pour un verre de trop sur une soirée qui s'annonce, j'espère pour vous tous, épique. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et pour ma part, je vous retrouverai quelque part à cheval sur la première semaine de janvier. La transition va se faire doucement mais sûrement. Il n'y a pas grand-chose en soi qui va changer dans l'immédiat. C'est pas on claque des doigts et tout change, mais on espère vous apporter beaucoup plus de profondeur en 2026 et j'espère que notamment nos futurs formats de storytelling, etc., vous permettront de découvrir de nouvelles choses sur cette nouvelle chaîne donc de FinTales. Et donc, en conclusion de tout ça, comme le disent les vieux avec le petit ricanement qui va bien à chaque fois, on vous dit à l'année prochaine. Ciao, ciao.